Jean-Jacques Friedman, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes directeur des investissements de Vega Investment Managers. On va parler avec vous de stratégie, de perspective sur les marchés financiers. On a senti peut-être une meilleure forme des marchés actions. Est-ce que véritablement la confiance est revenue ou on est plus sur des questions techniques?
Je pense qu'on est plus sur des questions techniques quand même. On est plus sur le fait qu'on contredit un peu le mouvement de début d'année, qui était quand même étonnant. Alors c'est facile de le dire après, mais tout le monde l'a un peu ressenti quand même. Je pense qu'on baissait pour des raisons qui pouvaient à un moment donné contester. Sur la Chine, il y avait le sentiment, nous on avait le sentiment que le plus dur avait été fait l'année dernière. Et donc la prise en compte de la croissance officielle, c'est plutôt pas les 7%, mais en réalité c'est 3-4, le marché s'en est rendu compte. Mais par contre, le point bas avait été atteint l'année dernière. Là, on est au contraire par rapport aux politiques budgétaires et monétaires, plutôt un peu plus de croissance. Et puis sur le pétrole, il y avait aussi le sentiment que ça aurait pu déjà se retourner même en début d'année, mais à un moment donné, le rééquilibrage entre l'offre et la demande se faisait. Donc ces deux éléments-là, on revient un peu à la case départ. Voilà, c'est un peu le sentiment qu'on a. Par contre, ça manque de construction encore, oui.
Alors, il faut dire que sur le plan économique, on a encore pas mal d'interrogations. Est-ce que c'est pas ça qui freine un peu les investisseurs, finalement, un peu ce manque de visibilité entre ce qui se passe aux États-Unis, l'Europe, la Chine?
Ce qui se passe aux États-Unis, on a le sentiment que, alors ce qui serait catastrophique, c'est si la croissance calait maintenant aux États-Unis, parce qu'il n'y a plus de munitions monétaires, quoi. Donc le problème, ça serait celui-là. Nous, on a vraiment le sentiment que ce n'est pas encore pour cette année. On le voit bien avec les créations d'emplois, on voit bien qu'il y a encore un taux de participation qui est encore assez faible, et donc il peut y avoir des créations d'emplois. Ben, finalement, ce qu'il y a, c'est que je trouve pas qu'il y ait tellement d'incertitudes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de moyen, c'est-à-dire qu'en Europe, on aura 1,5% de croissance qui engendre peut-être 5-6 de résultats. Par contre, ça, c'est le scénario, je dirais, moyen. On va peut-être finir finalement sur ces niveaux-là, mais en face, il y a beaucoup de risques, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de problèmes. Donc c'est ça un peu la symétrie. On se dit d'un point de vue économique, si on regarde ça paraît tenir et c'est un scénario moyen plus. Par contre, bah, il peut y avoir des phases à un moment donné de risk-off qui se manifestent très violemment, quoi. Ouais.
Oui, alors on avait eu aussi à un moment donné ce marché pétrolier qui finalement dictait les marchés actions,
Oui.
ce qui était quand même assez inquiétant. En tout
Oui,
cas, on
oui.
pouvait se poser des questions en tant qu'investisseur. Ça, c'est des moments de stress ou c'est lié à quoi?
Je pense qu'à un moment donné, on va se redéconnecter. C'est-à-dire que le marché, pendant plusieurs semaines, il s'est connecté à cela. Mais en fait, il n'a pas besoin de se connecter tick par tick. Parce que soit on est dans un scénario où le pétrole, il retourne à 25. Et là, non seulement on voit tout ce que vit l'Arabie Saoudite avec des vrais changements non seulement de gouvernance, mais de prospective, l'introduction d'Aramco, une vraie diversification. Et donc là, ça veut dire que je ne parle pas de l'Arabie Saoudite, mais d'autres pays sont vraiment en risque géopolitique, l'Algérie, le Nigeria. Et là, il y a un vrai déséquilibre. Et là, l'avantage qu'il y avait sur la baisse du pétrole est totalement mis à mal, et c'est grave. Soit ils se ressentent sur une zone un peu de confort comme on vit à l'heure actuelle. Et là, finalement, c'est plus l'avantage de la baisse initiale entre 120 et 40 qui prédomine. Nous, on n'est plus dans ce scénario-là. C'est-à-dire, on se disait, soit il y avait un accord, et ça a quand même été en échec à Doha, et la réunion de juin, je pense qu'elle ne va pas changer grand-chose. Et donc, soit il y avait cet accord-là, mais on n'est pas là-dedans. Et je crois que mécaniquement, l'offre et la demande de pétrole vont se rejoindre à horizon 2017-2018. Il n'y a plus qu'avant, il y avait 2 millions de suroffres par rapport à la demande, mais la demande, elle croît mécaniquement avec l'accroissement du PIB, et l'offre, malgré tout, il y a quelques faillites au niveau États-Unis. Donc je crois que ça se rejoint, et donc c'est plus ce scénario-là, et à un moment donné, un peu comme on l'a fait avec la Chine, en début d'année, on était très corrélé tick par tick à la Chine. La semaine dernière, le marché chinois baissait fortement. Le marché européen a compris que la bourse domestique chinoise, c'était plus un casino que vraiment un indicateur de la réalité de la croissance chinoise, quoi. Donc je pense qu'on va se redécorréler à ça dans quelques temps, quoi, oui, me semble-t-il.
Du côté des entreprises, est-ce que là, parce qu'on voit un certain nombre de résultats qui ont été publiés, on voit peut-être une baisse aussi du point de vue des analystes qui révisent à la baisse, hein, régulièrement les perspectives. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'inquiétude là en ce moment, en tout cas?
Je pense qu'ils l'ont déjà fait beaucoup parce qu'ils se sont tellement fait avoir les dernières années avec finalement des prévisions qui étaient toujours à 12-15 et en fin d'année c'était ajusté, que là l'ajustement était brutal et peut-être que la totalité de l'ajustement a déjà eu lieu. Donc là, de ce côté-là, il y a plutôt quelques bonnes surprises qui peuvent survenir, me semble-t-il, avec, alors, plus personne n'ose dire les mots alignement de planète, mais d'un autre côté, on s'aperçoit que les charges d'intérêt bas, ça marche, l'euro qui était plus faible, ça aidait, et puis la facture pétrolière qui était moins chère, ça aidait aussi. Donc ces éléments-là qu'on n'ose plus mettre en avant, ils concourent quand même à ce que bah, c'est les 5-6 de hausse des résultats dont je parlais tout à l'heure. Ouais.
Oui, parce que l'aliment de planète, c'était quand on nous disait que le pétrole baissait, l'euro baissait, donc tout allait bien. Effectivement, ouais, la croissance ouais. revenait un petit peu.
Ouais. En tout cas, ça avait quand même un effet sur la sensibilité, c'est-à-dire que le lien entre croissance et croissance des BPA, avec ça, devait normalement se faire avec une élasticité assez forte. Alors ça peut être mis en question, mais quand même, le fait que sur la croissance, on ne revient pas en arrière sur la croissance européenne, ces éléments-là aident à ce qu'on n'ait pas de révision, de nouvelles révisions baissières, me semble-t-il, sur les résultats des entreprises européennes.
Alors il y a, comme toujours sur les marchés, il y a des risques qui sont évalués plus ou moins bien. Il y en a qui le sont peut-être sous-évalués. On pense au Brexit, là, dont on entend parler de plus en plus, où certains écrivent que finalement les marchés sous-estiment l'impact qu'aurait le Brexit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, ça ?
Oui, je crois qu'on doit avoir en tête, mais pas forcément par rapport à l'impact économique du Brexit, qui pour la zone euro est quand même relativement mesuré. C'est plus l'échec politique de la zone euro, le vrai impact économique, il serait pour la Grande-Bretagne. Je crois que ça, plutôt sur la zone euro, c'est un ensemble d'éléments qui concourent à ça. C'est ce qui se passe avec la Grèce, c'est l'accord avec la Turquie, c'est le risque qui pèse sur Mme Merkel, de non-réélection l'année prochaine. Donc c'est d'autres pays finalement, à part le Brexit, alors on va inventer plein de noms avec X partout. Donc c'est plus ces éléments-là, c'est une masse d'incertitudes qui commence le 23 juin avec les élections en Grande-Bretagne et qui vont durer un an et demi jusqu'aux élections allemandes avec un risque éventuellement sur l'élection de Mme Merkel. Donc c'est plus un imbroglio et justement il n'y a aucune nouvelle où on pourra dire bah, ça y est, c'est fini. C'est une espèce de masse informe d'informations qui vont continuer finalement à créer une opacité sur le marché européen. Oui.
En termes de valorisation, quand on regarde les actions européennes, pour vous, elles se situent où?
Elles sont moyennes, elles ne sont plus bon marché, c'est ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, on pouvait être très optimiste et très confiant, et on l'a vraiment été, parce qu'il y avait à la fois une valorisation faible, une récession, et on voyait plutôt des prémices de croissance. Aujourd'hui, la valorisation est à niveau. Il y a quand même un petit peu de croissance, donc le marché est susceptible de connaître des éléments de stress. C'est pour ça que dans ces phases-là de remontée, ben nous on reprend quelques billes en se disant il peut y avoir quelques éléments de stress, il n'y a quand même pas d'alternative au marché action et malgré tout, il ne nous semble pas en risque, mais il faut se donner quelques billes pour intervenir lors de décrochage. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Ouais.
Le mot de la fin, justement, cette allocation, elle est tactique en ce moment plutôt
oui.
que stratégique ?
Oui, je pense qu'elle est plus tactique que l'année dernière. Il y a plus de différenciation. Il y a quand même des entreprises de croissance, même s'ils sont chers et la croissance devient rare et tout le monde le comprend, qui bénéficient, je pense, de cet environnement. Et oui, c'est pas simplement se laisser porter et c'est vraiment être dans le choix de valeur de manière beaucoup plus active encore que les années précédentes. Oui.
Merci Jean-Jacques Friedman.
Merci Didier.